Ce que nous avons fait en fait jusque-là, nous avons fait ça. Aujourd'hui, c'est notre quatrième rencontre à Figeac, dans le but de présenter un certain sujet de la non-dualité dans une forum et dans une forme beaucoup plus genre café philo ou genre grand public, pour essayer de trouver une façon générique de parler de ce sujet de la non-dualité. Pour le rendre le plus transparent et le plus compréhensible possible, pour essayer d'écarter trop des concepts, trop de magie, trop de choses trop érudites ou trop cherchées, pour essayer de revenir à quelques bases très, très logiques et très simples, pour essayer de décrire quelque chose qui est quand même très, très abstrait. Un aspect de l'esprit qui existe complètement en dehors du temps et de l'espace, de notre mental ordinaire et de notre vie ordinaire. D'essayer de trouver un langage, une façon de parler de ça, pour que chacun, même dans un milieu grand public, puisse commencer à saisir une idée, avoir une idée de ce que nous cherchons quand nous parlons de non-dualité. Et la raison, c'est-à-dire que si nous passons du temps à regarder ce sujet de la non-dualité, nous espérons quand même que c'est pour une bonne raison. Et la meilleure raison, c'est d'avoir un peu plus de tranquillité ou de paix. Simplement, ça peut être de satisfaire une partie de nous qui est très curieuse, ça peut être d'avoir plus de tranquillité d'esprit, de mieux comprendre certaines situations, de se comprendre mieux, mais en tout cas, on cherche, l'ego que nous sommes cherche à se faire du bien de par le biais ou de par le moyen de cette recherche, de cette étude de soi. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans ces rencontres, c'est trouver le rapport ou le rapprochement entre ces idées le plus philosophique ou le plus abstraite et notre expérience quotidienne. Qu'est-ce que c'est le rapport? Pourquoi? Comment ces idées qui sont parfois très abstraites, comment ces idées peuvent nous aider vraiment dans le quotidien? Comment ça peut m'aider? L'exemple que j'utilise très souvent, quand je veux démarrer la voiture, je suis en retard, la voiture ne démarre pas, ou j'ai du gel sur le pare-brise. Comment ça peut m'aider, toutes ces idées, toutes ces questions de dualité et non-dualité, comment ça peut m'aider comme mon collègue au travail? Il ne m'accueille pas comme il a toujours fait, il ne me salue pas comme il a toujours fait. Je reçois un petit mot bref sur mon bureau, comme quoi le chef veut me voir absolument dans une demi-heure. Comment la non-dualité, la philosophie peut nous aider quand nos corps sont malades, ne nous soutiennent plus comme on pense qu'ils doivent faire, et quand nos enfants commencent à être un petit peu trop rebelles à notre goût? Où est la place de cette grande philosophie à ce moment-là? Pourquoi étudier des questions abstraites de l'existence ou de la non-existence quand j'ai ce genre de problème? Donc, nous avons commencé la première présentation en juste regardant en général la structure, l'idée de ce que c'est la non-dualité. Par la suite, la deuxième rencontre, nous avons parlé de comment l'influence de ces grandes questions de la non-dualité ont une influence sur nos relations avec les autres. Nous avons regardé pendant la troisième séance l'effet ou la relation entre ces concepts philosophiques et nos corps. Qu'est-ce que c'est la place de la guérison? Qu'est-ce que c'est la place de notre inquiétude par rapport à nos corps quand il s'agit de regarder si le corps existe, si ça n'existe pas? En tout cas, moi j'ai une expérience du corps. D'où vient cette maladie, puisqu'on parle souvent que les maladies viennent d'une source encore plus profonde que juste les microbes et les cellules cancéreuses. Et sur ce plan, ce arrière-plan, effectivement, il y a des raisons. On a vu, il y a une sorte de compréhension philosophique ou une trame philosophique que nous pouvons appliquer par rapport à ces questions de la santé. Et aujourd'hui, en avançant sur notre planning pour ces conférences, nous devons parler de la relation entre ces grandes histoires philosophiques, ces grandes idées philosophiques et le milieu du travail. J'ai dit au début, puisque encore on n'est pas juste entre philosophes, on est au milieu grand public, on veut regarder les relations entre ces questions philosophiques et les relations, la santé, le travail et l'argent. Les quatre domaines où on peut exprimer des problèmes quelconques. La plupart de nos problèmes tombent dans nos difficultés qui nous font réfléchir dans cette vie, tombent normalement dans un de ces domaines. Je dis, si une philosophie va nous aider, il va nous aider dans ces quatre domaines. On va essayer de voir, pendant ces conférences, comment réfléchir à toutes ces idées peuvent nous éclairer sur les difficultés dans ces domaines. Pour commencer à vous parler de l'influence de ce sujet de la non-dualité en termes du milieu de travail, je dois revenir toujours en arrière, juste un petit peu, pour regarder notre plan du départ, ou le plan ou la structure de tout ce que nous faisons ici. Et je vous ai présenté maintenant plusieurs fois l'idée que, au fond de l'existence, il y a une unité parfaite. C'est un endroit où c'est une vie qui est complètement indivisible, sans la moindre différenciation. Notre vraie existence se trouve au sein de cette existence, et nous faisons partie de cette unité parfaite au point qu'il n'y a rien en nous qui peut vraiment se distinguer séparément ou différent de cette entité, de cette totalité. Ça, c'est pour notre vraie existence qui existe en dehors du temps et de l'espace. Maintenant, il semble que quelque chose est arrivé ou s'est passé pour que maintenant on ait une impression d'être sorti de cette unité parfaite. Et nous pouvons parler d'une sorte d'identité séparée ou fragmentée dans le monde de ce que les hindous appellent le monde de la multiplicité. Et cette identité, nous pouvons l'appeler une sorte de fausse identité par rapport à notre vraie identité qui s'écrit avec une I majuscule, pour dire que c'est une identité qui se trouve au sein de cette unité parfaite. Il semble que quelque chose s'est passé, s'est produit, pour qu'on soit dans cet état ici. Et l'avantage de cette philosophie en particulier, c'est qu'il essaie de nous donner des raisons ou la motivation derrière ce qui semble cette sortie de cette unité parfaite. On a eu cette discussion dans, je pense, la première conférence, qu'on n'a pas pu avoir une vraie sortie de cette unité parfaite. Ce n'est pas une sortie réelle, mais une sorte de sortie semblante qui a fabriqué une sorte de monde semblant ou semblant de monde qui semble très réel dans nos perceptions, et on va parler de ça. Et que nous pouvons dire, comme beaucoup d'autres spiritualités, que c'est un faux monde. Ce n'est pas un monde réel, mais c'est un monde d'illusion, une sorte de rêve que nous sommes en train de rêver ensemble, d'une façon collective. Et encore la particularité ici, c'est que je vais vous proposer une philosophie, une idée philosophique, pour la raison derrière cette apparence d'individualité, de fragmentation. Et c'est simplement qu'à un moment, il est arrivé à une partie de la totalité qui est déjà un paradoxe, bien sûr, que nous n'allons pas approfondir ici, ce que nous en avons parlé dans la première réunion, quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, c'est le paradoxe, comment une partie d'une unité totale puisse exister, ça ne peut pas vraiment exister, mais on a l'impression que ça existe, a pu se poser des questions, et si on avait une expérience autre que cette unité parfaite, qu'est-ce qui se passerait? À ce moment-là, le fait de se poser cette question, ça donnait l'impression qu'une telle chose pouvait se produire. Donc, il y a une motivation derrière le monde de la fragmentation, ce qui est le résultat de cet événement, c'est nous, en tant que des individus. Il y a une impulsion, il y a une motivation derrière. Il y a un mouvement, il y a une sorte d'inertie derrière, qui pousse les individus que nous pensons être, à vouloir continuer l'expérience de l'individualité, pour pouvoir expérimenter, pour essayer d'expérimenter un monde d'individualité, une expérience d'individualité, une expérience d'être moi-même. Donc l'intuition, toujours ici, la sorte de motivation de fond chez chacun, c'est qu'il veut continuer à penser qu'il est soi-même, en dehors de cet magnifique espace qui est toujours réservé pour nous, qui n'a jamais pu être brisé. Mais dès l'instant que je pense que j'existe en tant qu'une chose séparée et individuelle, avec un nom et une histoire personnelle, avec un passé, à cet instant-là, je vais avoir l'impression d'exister en dehors de cette grande et magnifique chose, surtout tant que j'investis et que je veux que ça soit ma réalité. Maintenant, nous avons déjà une première petite idée qui est intéressante, c'est que la dualité apparaît dans mon esprit, non pas juste par magie, non pas juste comme un accident, non pas juste par hasard, mais il y a une intention, une inertie derrière qui continue à entretenir la perception de la dualité dans mon esprit, même si une partie de mon esprit dit non, stop, j'ai plus envie de connaître toutes les différentes difficultés de boire de la dualité. Maintenant, je veux connaître la majesté, la paix, la tranquillité de cette magnifique unité. Pourtant, la dualité reste dans ma perception, surtout dans mes réactions et dans mes émotions. Pourquoi? Et c'est là encore où nous apprenons. C'est parce qu'il y a une inertie de fond. Il y a quelque chose qui nous pousse de l'intérieur à chercher toutes les perceptions qui semblent valider et confirmer la perception ou l'expérience de la dualité dans ma vie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas ce n'est pas un accident. C'est qu'il y a une inertie, mais une inertie que je ne vois pas. Une sorte d'impulsion, un mouvement qui vient de l'intérieur de mon esprit, que je ne vois pas, et ainsi ça semble un accident, ça semble juste quelque chose qui se produit, qui se manifeste dans ma perception. Et donc, par un certain processus psychologique qui s'appelle le déni, j'arrive à cloisonner mon esprit entre la partie que je veux voir, c'est-à-dire ma conscience, et la partie que je ne veux pas voir, c'est l'inconscience. Si je ne veux pas savoir que je suis responsable pour la dualité qui est dans mon esprit, comme une sorte de choix constant dans mon esprit, si je ne veux pas le voir dans l'inconscience, je ne vais pas le voir. J'ai déterminé, je ne veux pas le voir, personne ne peut me forcer à voir quelque chose que je n'ai pas envie de voir. C'est pour ça qu'on peut très facilement avoir l'impression que quelque chose m'arrive sans que je le veuille, sans que c'est quelque chose que j'ai souhaité, y compris des émotions, des réactions, des certaines expériences ou une perception de dualité. Je suis extrêmement habile à nier le fond de ce qui se passe en moi, une sorte de dynamique d'un choix de dualité qui se produit en moi. Je suis extrêmement habile, l'être humain est extrêmement habile à faire ça. Il peut se leurrer, il peut se voiler la face des choses qu'il n'a pas envie de voir très, très, très facilement. Et il peut nier ça entièrement, qu'il a la moindre capacité de choisir la dualité et puis de dire après, non, j'ai rien choisi, c'est juste quelque chose qui se produit. Et ça, c'est de toute façon, il y a Freud qui nous a aidé à comprendre la puissance de l'inconscience depuis plus de 100 ans maintenant. Et il nous a aidé à comprendre la conscience qui peut vouloir une chose et l'inconscience qui peut vouloir exactement l'inverse. Et il n'y a presque rien à faire. La conscience n'a pas du tout le poids contre l'inconscience. L'inconscience est beaucoup plus puissante. Donc, tout ce processus de réflexion et d'observation consiste en fait à devenir plus conscient de ce que nous avons caché dans notre inconscience. Tout ce processus de devenir des philosophes amateurs et même professionnels consiste à comprendre de mieux en mieux l'esprit, le fond de notre esprit, surtout les choses qu'on n'avait pas envie de voir, comprendre d'où ça vient, les mécanismes par lesquels nos réactions se font, et par la suite de se poser une série de questions sur ce qu'on souhaite contenir, sur ce qu'on souhaite voir la façon que nous voulons que nos esprits fonctionnent. Et c'est ce que nous essayons de faire dans toutes ces rencontres, c'est simplement devenir le plus en plus conscient. Et c'est ça l'avantage d'étudier cette philosophie et une autre philosophie quelconque, une philosophie quelconque, une psychologie quelconque, aller aux rencontres quelconques, c'est devenir de plus en plus conscient de son propre fonctionnement. Et c'est avec cette conscience, cette prise de conscience, cette meilleure compréhension de son propre fonctionnement, que quelque chose de véritablement magique ou miraculeux peut se produire dans l'esprit. C'est qu'au fur et à mesure qu'on gagne une sorte de maturité spirituelle ou philosophique, nous faisons des petits choix. Des petits choix tous les jours qui guident notre expérience. Quand on commence à se voir faire dans une certaine situation, on peut l'observer et dire, mais là encore, je suis encore en train de partir dans un délire, partir dans un truc, je me vois faire et maintenant, avec tout ce que j'ai compris, je vois pourquoi je le fais. Mais avec cette connaissance, il y a quelque chose qui dit, et si j'ai pas envie de le faire? Et si j'ai pas envie de le continuer? Je ne suis plus obligé. Avec la conscience, avec la compréhension de ce que je suis en train de faire, sans le vouloir, j'ai plus de maîtrise et plus de contrôle. Sans vraiment maîtriser et contrôler, ce n'est pas une vraie maîtrise ou une vraie contrôle, c'est simplement des prises de conscience qui nous laissent comprendre qu'au lieu de se faire mal, en choisissant toujours la perception de la dualité, du conflit, de la compétition avec les autres, je peux choisir une perception beaucoup, beaucoup plus douce et bienveillante envers les autres et envers moi-même. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui en étudiant, en regardant comment toutes ces histoires de dualité et non-dualité déroulent dans le milieu du travail. Nous avons déjà regardé ça un petit peu par rapport aux relations et la santé. Et un autre domaine où nous pouvons constater facilement des dérangements ou des réactions assez vives ou une certaine difficulté vraiment de trouver la satisfaction ou la plénitude, c'est dans le domaine du travail. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un vraiment qui échappe à ressentir à un autre moment, à un moment ou autre, qu'il est un peu emprisonné dans une condition difficile, une situation qui semble entretenir une difficulté dans son esprit. Il semble être emprisonné par une série de circonstances, de personnes autour de lui, et il a du mal à dire, à prendre une position philosophique et tranquille et entre guillemets zen par rapport à son milieu. Et c'est là où nous allons regarder aujourd'hui un petit peu plus en détail, à savoir que exactement les mêmes choses, la même dynamique dont nous allons parler maintenant, se déroulent dans nos relations avec quiconque, dans n'importe quel milieu, que ce soit avec la famille, avec nos beaux-parents, nos enfants, avec le gouvernement, la mairie, avec l'exemple que j'utilise très souvent, c'est avec les caissières ou avec les personnes au supermarché. C'est toujours la même dynamique, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de voir que au-delà des apparences de la façon par laquelle ma vie déroule, au-delà des apparences du déroulement de ma vie ordinaire, il se passe quelque chose. Il y a autre chose qui se passe sur un arrière-plan. Et cette chose, cette sorte de métaprogramme qui déroule, qui se passe, est en train de se passer, en train de se dérouler dans mon milieu de travail, mais aussi bien dans ma famille, dans mes relations avec mes parents, mes oncles, aussi bien dans toutes mes relations, même avec ma relation avec mon corps, il y a cette sorte de métaprogramme qui est toujours en train de se dérouler. Qu'est-ce que c'est cette métaprogramme pour essayer d'en parler dans quelques mots? À l'instant que nous avons décidé, entre guillemets, de sortir de cette unité parfaite et douce et tranquille, c'est un choix que nous avons fait, et c'est un choix qui est venu aussi avec quelques conséquences. Ce n'était pas un choix anodin, parce que si notre réalité reste au sein de cette magnifique présence que nous pouvons aussi appeler présence transcendante d'amour, de bienveillance, de tranquillité, d'éternité, intemporalité, de perfection, le fait de vouloir sortir de celle-ci nous donne tout de suite, bien sûr, une condition d'être, de ne plus être dans cette présence magnifique, dans ces conditions magnifiques de totalité et de plénitude. Nous ne pouvons pas vouloir nous séparer de cette unité parfaite et être aussi bien que quand on était là-dedans. C'est une sorte de définition logique. Donc nous apportons avec nous, dans notre choix d'individualité, une condition d'être moins que ce que nous étions. Alors, cette expérience de fragmentation d'individualité est accompagnée par un sentiment d'être manquant, de manquer de quelque chose. C'est pour ça que nous avons autant de concepts ou d'idées de vouloir plus de plénitude, plus de complétude dans notre vie. C'est parce qu'effectivement, nous ressentons, nous constatons tous qu'il semble manquer quelque chose en nous, dans notre existence, dans nos vies. Donc, une certaine manque, incomplétude. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un sentiment de mal-être qui nous accompagne dans ce choix de vouloir sortir, de vouloir être différent de notre vraie identité. Une sorte de mal-être qui est accompagné d'un sentiment de honte, d'un sentiment de culpabilité, en pensant que notre sortie de la plénitude et d'une unité a fait en sorte que la plénitude est amoindri maintenant et moins que ce que c'était avant, que quand on était à l'intérieur. Nous avons l'impression, c'est entièrement une sorte de mythologie ou une tentative de comprendre ce que c'est l'état de s'être individualisé. Ce n'est pas que nous l'avons fait en vérité, mais tant que nous pensons l'avoir fait, nous allons penser être moins que ce que nous étions avant, et que ce sentiment d'individu sera aussi accompagné d'un sentiment d'avoir blessé en quelque sorte cette magnifique présence d'où nous venons, qui crée une sorte de tension, ce que j'ai dans d'autres conférences, j'ai appelé une sorte de tension ontologique, ou une tension existentielle entre nous et cette source. Et c'est ça l'origine de tout sentiment de honte, de culpabilité, de peur.
De punition.
Hein?
Punition.
De punition, exactement, de punition. Parce que la peur, c'est le sentiment que je suis coupable, c'est l'idée que je suis coupable. La peur, c'est l'idée que puisque j'ai fait quelque chose de mauvais, j'attends maintenant une sorte de punition dans l'avenir. Donc, je suis rempli d'une appréhension existentiel, très 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 profond, que je mérite en quelque part une sorte de châtiment ou une sorte de punition. D'où vient nos peurs tout à fait ordinaires et nos paranoïas et aussi toutes ces histoires de complots. Il y a au fond de l'être humain une sorte d'appréhension que quelque chose lui en veut, qu'il y a une raison de craindre dans cette existence. Même si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, parce que des fois, pour beaucoup d'entre nous, surtout dans les pays riches, on n'a rien à craindre vraiment. On n'a pas vraiment à craindre. Pourtant, il y a très 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 peu de gens qui peuvent dire qu'ils sont vraiment soulagés et qu'ils ne connaissent aucune crainte. C'est comme si la peur fait partie de l'être humain.
Maintenant, on passe sur les peurs psychologiques, pas les peurs liées à, en effet, la crainte de manquer d'en manger dans notre société. Il y a deux phases finalement dans la peur.
On peut parler de deux phases. On peut parler d'une phase très ancrée dans l'ADN de l'être humain par rapport à sa véritable existence. C'est ce qui et on peut parler après de toutes les différentes déclinaisons de cette peur, telles que la peur de survie, la peur qu'il m'arrive une pépin, la peur de ne pas être aimé. Il y a plein de différentes expressions de cette peur par la suite. Mais même si j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants qui m'aiment, j'ai une situation financière vraiment puissante ou certainement adéquate, et il y en a beaucoup dans cette société qui l'ont, qui se trouvent dans des situations correctes, qui n'ont pas vraiment de raison d'avoir des craintes, des vraies craintes, on peut néanmoins ressentir une sorte d'appréhension dans l'existence. C'est tout à fait faisable. Et donc, je veux venir à dire que par rapport à la discussion aujourd'hui, le fait d'avoir voulu sortir de notre véritable réalité, ce que nous pouvons appeler cette unité parfaite, nous avons l'impression d'avoir créé ces individus que nous voyons devant la glace, devant nous, et pour parler dans le contexte du milieu de travail, cet individu est accompagné par trois sentiments très puissants. Un sentiment de douter de lui-même, un doute très profond par rapport à sa valeur, par rapport à son importance. Il n'est pas sûr de lui. Il y a quelque chose qui le travaille tous les matins quand il se regarde dans la glace, à se poser la question, est-ce qu'il est assez affirmatif dans son existence, est-ce qu'il est trop dominé par les autres, comment il va négocier ses relations avec les autres pour faire sûr qu'il ait ses besoins remplis. Ce qui revient à notre deuxième sentiment très profond, c'est le sentiment d'incomplétude. La personne qui me regarde dans la glace le matin n'est pas quelqu'un qui est absolument complète en elle-même. Il sent en regardant la glace le matin qu'il va avoir des besoins dans la journée qu'il va essayer de remplir d'une façon ou d'une autre. Et la troisième chose, je pense que j'ai fait un joli mélange de l'ensemble, c'est qu'il sent cette incomplétude, donc il doute de lui-même, il a un sentiment d'insécurité et voilà, il a un sentiment d'incomplétude. Voilà, ça, les trois choses ici, je voulais revenir à ça par rapport à notre question de milieu de travail. Parce que ces trois choses-là, de douter de sa valeur, d'un sentiment d'insécurité par rapport, voilà c'était le troisième, l'insécurité par rapport à ce qui va se dérouler dans sa vie ordinaire, et ce sentiment d'incomplétude vont le suivre cette personne dans son milieu de travail. Dans la conférence que nous avons faite sur la santé, nous avons parlé d'un autre aspect de cette sortie de l'unité qui nous comble avec un sentiment de culpabilité et de honte qui a certaines conséquences pour sa santé. C'était l'aspect de cette sortie de l'unité sur lequel nous avons focalisé quand on parlait de la santé. Aujourd'hui, les trois choses qui nous pourchassent ou qui nous poursuivent dans notre milieu de travail et qui déroulent dans notre milieu de travail sont le sentiment de douter de soi-même, de son importance et de sa valeur, le sentiment d'insécurité, qu'il y a des vraies choses à appréhender dans l'avenir, et un sentiment d'incomplétude, qu'il faut essayer de se sentir plus complet. Et voilà les trois impulsions qui le suivent dans son milieu de travail, c'est qu'il va essayer d'utiliser son milieu de travail pour se valoriser, pour trouver plus de présence en lui-même, de trouver de plus d'identité de par son travail. Il va essayer d'utiliser son travail, son milieu de travail, pour se défendre, pour essayer de se positionner, pour trouver une manière d'avoir le meilleur contrat avec des meilleures conditions. À la dernière chose, il va essayer d'utiliser son milieu de travail pour la satisfaction de son soi, pour s'exprimer, pour évoluer, pour développer. Et ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de voir comment cette dynamique de fond qui vient de notre choix de vouloir essayer de nous séparer de l'unité qui était un échec, parce qu'on ne peut jamais sortir de l'unité, mais on peut essayer de sortir de l'unité, ce qui donne l'impression d'être devenus ces individus, ça a une conséquence, et la conséquence c'est toute cette dynamique de ces trois impulsions puissantes que nous devons renforcer et continuer à essayer qui nous pousse déjà de l'intérieur, qui crée notre inertie au travail, une sorte de dynamique de comportement, de notre comportement et le comportement des autres. Et nous allons essayer de voir comment ça déroule dans notre milieu de travail. Et la façon que ça déroule dans notre milieu de travail, c'est par la perception. Parce que si une chose est claire, c'est que si ce monde est, selon plusieurs spiritualités, une sorte d'illusion, une sorte de rêve, alors les choses dans cette vie ici et les situations dans cette vie ici sont en réalité neutres. C'est juste des choses. C'est des choses qui n'ont pas vraiment une charge particulière. C'est nous qui devons donner à des choses une certaine interprétation, une certaine charge pour que ces choses m'affectent, pour que j'y sois affecté par les choses. Quand je peux avoir une puissance souvenir par rapport à une pupitre, si j'avais été un enfant élevé dans une famille où il y avait seulement mon père qui jouait la musique, qu'il adorait la musique, mais mon père n'était pas souvent à la maison. J'aimais beaucoup mon père. Quand il était à la maison, la première chose qu'il faisait, parce qu'il était VRP, je ne sais pas quoi, quand il revenait à la maison, la première chose qu'il faisait, il nous asseyait sur le canapé, il sortait le pupitre, il nous jouait un morceau de musique sur le saxophone. Alors moi, j'ai une interprétation par rapport au pupitre. Quand quelqu'un sort un pupitre, tout de suite, je me sens soulagé, je me sens bien, comme si la famille est au complet, on va passer un bon moment ensemble, en famille. J'adore ça, j'adore m'asseoir dans un environnement où il y a un pupitre. Je peux avoir une relation avec une pupitre qui n'est plus anodin, qui a une charge pour moi. Pourtant, une pupitre, c'est juste du fer, du métal et du plastique. Mais il faut moi et l'interprétation que moi je lui donne à cette bout de fer pour avoir une réaction et pour provoquer une sorte d'émotion chez moi par rapport à ça. Et nous pouvons dire pareil, ça semble anodin mon exemple, mais nous pouvons dire pareil par rapport à tout ce qui arrive dans cette vie ici. Absolument tout ici est neutre. Et pour avoir une réaction par rapport à X, Y ou Z situation ou personne ou objet, je dois attribuer une interprétation. La perception est extrêmement puissante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un moteur en nous qui est toujours en train d'alimenter notre perception, de chercher une certaine perception. C'est le moteur, c'est l'esprit, c'est le choix d'esprit que j'ai fait à l'intérieur, encore soit pour regagner la perception de l'unité, ou soit pour sortir de l'unité et continuer à alimenter cette machine pour essayer de continuer à devenir et être cet individu. Et cet individu qui se perpétue et qui maintient sa perception d'être un individu, de par ses perceptions, ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il est manquant, c'est sa perception de base, il est dans l'insécurité, c'est sa perception de base, il est incomplet, il doute de soi-même, il doute de son importance, il doute de sa valeur, parce qu'effectivement, il sait au fond de lui qu'il n'est pas vraiment cet individu de toute façon. Il est véritablement autre chose, il est une unité parfaite. Donc, en tant que cette pauvre petit individu, il est poussé par ses impulsions qu'il doit continuer à maintenir tant qu'il veut rester un individu. Et c'est ça qui va alimenter et pousser sa perception. Donc, perception n'est pas anodine. La perception est poussée de l'intérieur par des impulsions. Et voilà, donc, il va voir cet individu autour de lui des choses, des situations qui vont le reconforter et valider dans ses perceptions. S'il pense qu'il est manquant, il va voir des choses autour de lui qui vont lui envoyer ces messages qu'il est manquant, qu'il est incomplet. S'il pense qu'il manque d'importance et manque de valeur et manque d'identité, il va voir des choses autour de lui qui reflètent cette perception intérieure. S'il ressent à l'intérieur une sorte d'appréhension, comme s'il y a un problème chez lui, une sorte de crime ou faute, pour lequel il pense qu'il doit être puni, il va voir des situations qui suscitent ou qui sollicitent l'inquiétude, l'appréhension. Et ce n'est pas simplement la perception. Il y a aussi quelque chose encore plus puissant. Ce n'est pas juste sa perception. Il est capable lui-même de se laisser magnétiser ou attirer vers des réelles situations qui met en question sa sécurité, sa valeur et sa complétude. si inconsciemment, je suis poussé de l'intérieur pour me voir dans des situations d'insécurité, d'incomplétude et de doute de moi-même, je vais inconsciemment me guider vers ces situations. Et à la fin, pour pouvoir dire à tout mon entourage et à moi-même, surtout à ma femme et mes amis, le voilà, je le savais bien, regarde la situation dans laquelle je me trouve, j'ai des gens autour de moi qui ne m'aiment pas, je me trouve encore dans une situation où je ressens difficulté de m'exprimer au travail, personne ne me laisse faire ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas encore le contrat qu'il me faut, pour vraiment me sentir en sécurité, personne ne veut vraiment me valoriser comme je pense que je dois être valorisé. Donc la perception n'est pas anodine du tout, c'est alimenté par une sorte de moteur à inertie qui, une fois que c'est lancé, c'est difficile de l'arrêter, parce qu'en fait, inconsciemment, nous sommes motivés de le continuer. Tant que nous voulons rester en dehors de cette magnifique présence de l'unité, nous allons continuer à faire travailler notre moteur d'individualité qui a toujours besoin de se voir dévalorisé dans l'insécurité et dans l'incomplétude. On peut même faire un rapprochement avec nos familles et avec les relations avec les autres. Pour les gens qui se trouvent très couramment ou très souvent dans des relations où ils ressentent qu'ils ne sont pas valorisés, appréciés, ils sont dans une insécurité, comme si l'autre personne peut partir, et une difficulté vraiment de s'exprimer et de s'épanouir. Que ce soit dans le milieu des relations en famille ou les relations au travail, il y a le même phénomène qui peut se produire. Parce que c'est dans l'inertie, c'est dans l'ADN, c'est dans la programmation de fond. On parle maintenant de l'inconscience profonde. Et la raison derrière tout ceci et tout ce qui va se produire dans le milieu de travail, c'est encore la chose qui enracine cette machine, qui la garde en permanence, en continuité. C'est cette envie de continuer l'expérience de la dualité, de l'individualité, ce qui veut dire garder à distance le souvenir de l'unité parfaite et sa magnifique présence qui est tout autour de nous à chaque instant, mais de ne pas être responsable, pour les conséquences de ce choix. C'est-à-dire, quand je décide le matin de sortir de l'unité, d'investir complètement dans ma personne, de dire que tu es le roi de ta propre vie, va maintenant faire ton royaume, développe ton royaume dans la vie de la dualité, je serai accablé par le sentiment d'être moins que ce que j'étais, moins que ce que je suis dans notre unité parfaite, ça c'est sûr. Donc je serai accablé par un sentiment d'incomplétude, je serai accablé par un sentiment d'insécurité, je serai accablé par un sentiment de ne pas avoir assez de valeur, mais je ne vais jamais vouloir voir que c'est un choix que moi j'ai fait. Je vais devoir trouver une autre explication, et l'explication va toujours impliquer d'autres personnes. C'est ça qui m'enracine dans la dualité, qui fait en sorte que moi, j'utilise les objets et les situations autour de moi pour faire partie de la délire dans ma vie, de la démence, du délire dans ma vie, et de la démence dans ma vie, ma démence d'individualité, ma démence de sortie, de vouloir continuer mon expérience perso d'être sorti de cette magnifique présence. Je vais me servir des autres qui sont juste des personnes et des situations, des choses absolument neutres. Moi, je vais donner ces charges énormes à ces gens-là. Et la charge que je vais donner, c'est que maintenant, c'est mes bourreaux. C'est les gens qui m'affectent et qui peuvent m'affecter négativement dans ma vie. Je me vois toujours la victime des autres. C'est très important pour moi. Une fois que j'ai pris le choix, que j'ai fait le choix de vouloir m'écarter de cette douce présence qui reste toujours avec moi comme une réelle présence. Mais si je ne veux pas le reconnaître, si je ne veux pas le voir, si je ne veux pas savoir qu'elle est là, je dois trouver une manière ou un moyen de justifier pourquoi je ne me sens pas bien. La vraie raison, c'est que j'ai dit non à la présence de l'unité parfaite et de l'amour qui est juste à côté de moi, mais je ne veux pas savoir. Parce que j'ai choisi de ne pas m'avancer vers elle. Je ne veux pas voir mon choix. Donc, je trouve d'autres raisons. Et l'autre raison va toujours impliquer les autres autour de moi, qui sont dans un sens des gens innocents. Dans un sens, c'est des gens innocents parce que personne n'a vraiment la capacité de me faire sortir de la présence de l'amour, de l'unité parfaite, si je ne le veux pas. Personne ne peut entrer dans mon esprit et littéralement arracher la présence de l'amour, de l'unité de mon esprit. Personne ne peut me le faire. Mais moi, je peux dire qu'il a la capacité de le faire, et il le fait quand je lui demande pour la troisième fois qu'il valide mon CDI, et il dit non, je te garde en CDD, et moi je pète un câble, et je dis mais c'est pas juste, c'est incroyable, c'est la troisième fois, moi il faut que j'assume à la maison, je ne peux pas demander une hypothèque à la banque tant que je n'ai pas un CDI. Je suis sorti complètement de la présence de l'amour, je suis affecté parce que je me laisse affecter. Je dis que c'est sa faute, il ne veut pas confirmer, il ne veut pas valider mon CDI. C'est lui qui est responsable pour le fait que je me sens complètement désemparé, dans l'insécurité, dans la honte aussi auprès de ma famille, dans l'incomplétude. Je ne peux pas avoir ma belle maison, je ne peux pas avoir mon identité, je suis toujours en location, j'ai 35 ans, ça ne va pas. J'ai des collègues de lycée, les amis du lycée qui ont déjà leur propre maison depuis 5 ans. Et moi, c'est toujours une impossibilité et c'est à cause de mon chef, de mon patron. Donc ce que j'essaie de faire ici, c'est d'essayer d'expliquer comment une simple décision de sortir ou de choisir de ne pas avancer, de reconnaître la présence de l'unité parfaite autour de nous, peut avoir toutes sortes de conséquences et déclinaisons d'expériences dans nos vies, jusqu'à être en colère avec mon patron parce qu'il ne veut pas valider mon CDI.
Vous ne pensez pas que ça vient de nos sociétés qui nous apprennent à désapprendre, justement, on forme des spécialistes à propos de moi.
Ah oui, absolument. On remarque ça de plus en plus dans les entreprises. Avant, quand on avait des entreprises familiales, les familles gardaient la vision de l'ensemble. Il y avait une vue de très 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 long terme. Maintenant, et donc ça gardait une sorte aussi l'ancien patriarche de ces grandes entreprises familiales avait souvent une relation avec ses employés presque de père et enfant. Et il voulait prendre soin d'eux. Il y avait, on peut dire qu'il n'y a pas eu une amélioration dans le milieu de travail, certainement par rapport à cette relation dans l'hiérarchie.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, l'horizon le plus lointain, c'est le résultat comptable dans 3 mois.
Le court-termisme est responsable et c'est reconnu pour une grande partie des difficultés de développement des entreprises. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, on voit une énorme différence entre les cultures des entreprises japonaises qui ont une vision beaucoup plus long terme. Mais aussi, mais tout ceci n'est pas dans un sens un accident. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers l'unification de la vue. Comme vous dites, on s'éclate de plus en plus, on le fragmente. Court-termisme, on écarte, on scinde le long terme du court terme, comme si c'est trop loin. C'est parce que l'ADN de l'être humain, c'est vers de plus en plus de fragmentation. Il ne veut pas unifier, il veut fragmenter, il veut éclater des choses. Et notre but, pour être de mieux en mieux dans notre entreprise, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient, de comprendre la motivation des autres qui ils peuvent pas, ils ont tellement de mal à s'empêcher de faire. Ils sont aussi pris dans cette machine. Et eux aussi, ils sont dans le système des objectifs de plus en plus courts, ils sont évalués par rapport à ces objectifs. Eux, ils ont aussi, peut-être ils fonctionnaient avant sans système d'objectifs, les objectifs n'existaient même pas toujours existé. même au Crédit Agricole, on les a vus introduits juste il y a 10 ans, à peine dans certaines agences, ce qui permettait à l'individu justement d'avoir une vision beaucoup plus globale et surtout relation beaucoup plus long terme avec les clients. Maintenant, on fragmente et on découpe les agents au Crédit Agricole. Au lieu d'être dans la même agence 15 ans, 20 ans, ils sont tournés après 2-3 ans, justement pour ne pas développer trop d'inertie et trop de lassitude des relations entre eux et les clients. Le milieu de travail est absolument dominé, malheureusement, ou on peut dire normalement, par cette culture de vouloir manipuler, j'allais en revenir, absolument de manipuler, ce qui veut dire de prendre plus et donner moins. Voilà. Prendre plus et donner moins. Toujours. Et donc, nous pouvons, ce que nous allons essayer de faire, c'est comprendre d'où vient cette culture de vouloir toujours avoir plus et donner moins. Le milieu du travail aujourd'hui est dominé par la manipulation, par une hiérarchie de plus en plus forte et puissante qui donne des objectifs et qui demande de la performance contre les objectifs. Il y a aussi certaines incohérences qui peuvent développer au sein de l'entreprise. Les employés peuvent même voir ces incohérences alimentées par ce court-termisme. Parce que les employés savent que pour bien continuer sur une bonne ligne de conduite, il faut faire certaines choses maintenant pour 5 ans dans l'avenir. C'est trop long, ça ne sera pas fait. Changement de machine, formation de personnel. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de savoir qu'on ne peut pas forcément changer les choses au travail.
Et puis, le but, ce n'est pas chercher ou réparer le faux, mais chercher le vrai.
Ah oui, les deux choses ne sont pas forcément incompatibles.
Non, mais d'abord se tourner vers le vrai, ne pas chercher à améliorer le faux. Regarder là où il y a la source.
Malheureusement, beaucoup d'entreprises, on peut fonctionner dans un
entreprise, mais individuellement chercher la source.
Chaque individu qui travaille dans une entreprise peut certainement commencer à d'abord comprendre d'où vient le comportement des autres, d'où vient le court-termisme, d'où vient le besoin de manipuler, l'hiérarchie, l'harcèlement, d'où vient cette pression. Et nous pouvons d'abord voir que nous avons parlé d'insécurité tout à l'heure, l'insécurité qui est quasiment dans l'ADN de l'être humain. Ce n'est pas simplement dans l'ADN de l'être humain, c'est aussi dans l'ADN de chaque entreprise. L'insécurité de plus en plus, aussi à cause du mondialisation, nous sommes maintenant pas simplement en concurrence avec les entreprises françaises, mais avec des entreprises à l'étranger. Donc, une entreprise française en concurrence maintenant avec les entreprises chinoises et puis tchèques et tous les autres.
Il y a une culpabilité collective,
peut-être par rapport au choix qu'on a fait, qu'on n'a pas fait.
Dis-moi par rapport à ce que tu disais avant, qu'on recherche ou on attire des situations qui vont confirmer ce qu'on s'était fait comme film.
Ouais.
Ça veut dire que le métier qu'on choisit, ou qu'on a l'impression de choisir, ça, c'est nous qui le... ouais. Par exemple, quelqu'un qui croit qu'il faut être agressif pour réussir, il veut choisir un métier où il faut se battre plus ou...
Ah oui, exactement, oui. Bon exemple. Quelqu'un qui est peut-être dominé par ce sentiment de peur, qui a peur, veut dire soit il est soumis, soit il est dominant. Mm-hmm. Et donc, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont plutôt soumis parce qu'il y a tellement de dominants aussi. Il y en a d'autres qui vont prendre le contre-pied et essayer d'être l'un des dominants, l'un des meneurs ou des attaqueurs. Et donc, il sera peut-être chef d'entreprise ou VRP, il va consciemment ou inconsciemment, peut-être il le sait aussi qu'il est comme ça. Il y en a aussi beaucoup qui savent, qui sont comme ça, donc ils se guident naturellement vers les métiers où ils sont attaquants.
Parce que moi, ça m'émerveille toujours de voir qu'il y a tant de métiers différents, autant, et qu'il y a toujours le nombre de personnes pour remplir ces postes-là. Par exemple, même dans un orchestre, il faut beaucoup de violons et une seule harpiste, et il y a toujours ce qu'il faut là où il faut.
Ah, ou c'est une façon de voir.
Vouloir être banquier ou vouloir être médecin.
Il y a peu de gens qui font ce qu'ils veulent, en fait.
Oui. Comme ça. Mais tu portes déjà ton matériel ADN.
Oui, je ne sais pas, Diane, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient être médecin ou kiné. Il n'y a pas de place pour les, assez de place pour les médecins et les kinés. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient aussi être, travailler dans une banque d'investissement et gagner 2 millions par an.
Et il y a
oui, des chefs de protégés, je pense.
Ça veut dire que les gens sont soumis, alors ils sont. Ils ont choisi, ils ne sont pas d'accord avec leur vie.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en accord avec leur vie, absolument. Toi, tu l'es parce que tu as eu le courage de faire vraiment ce que tu as voulu faire. Il fallait peut-être te batailler un petit peu, parce que ce n'était pas un métier évident non plus.
Ce n'est pas du courage, c'est du plaisir.
Oui, mais...
Enfin, c'est vraiment le seul domaine où j'ai aucune peur, moi, le boulot.
Mais qu'est-ce que tu fais là? si la métaphore du travail ou le domaine du travail n'est pas forcément ce qui te parle le plus, essaie de regarder pour les gens autour de toi qui ont une difficulté, ou essaie de peut-être appliquer exactement les mêmes idées dans un autre domaine, comme les relations avec les autres, avec les parents, les frères, les sœurs, ou même les relations entre pays, pour voir pourquoi. Les problèmes autour de nous, que ce soit dans nos milieux de travail, dans nos familles ou entre les pays, c'est toujours alimenté par ce besoin de dominer à cause de ces questions d'insécurité, à savoir que cette insécurité de fond vient et dans l'ADN de l'être humain tant qu'il insiste à continuer à se tourner le dos à ses origines spirituelles. Voilà.
Est-ce que ça vient du fait qu'on a tous en nous une part de cerveau reptilien, plus ou moins développée?
L'idée est assez courante et ça revient à du darwinisme, c'est l'idée de l'évolution des différentes espèces. Et c'est certainement une idée qui semble avoir fait ses preuves et qui semble expliquer une partie du comportement humain. Ce que nous essayons de regarder, c'est que même chez les gens soumis, il y a à peu près le même phénomène, mais qui se déroule de notre façon, et ça déroule ou ça s'exprime de notre façon, à cause d'une sorte de métaprogramme qui est encore plus profond que juste l'animal alpha, le chien alpha, qui doit dominer. Il y a encore quelque chose derrière, parce que même cette personne alpha, il a une peur énorme. Et c'est pour savoir d'où vient cette peur, qui n'est pas expliquée dans son milieu de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de chefs qui sont en position de force, mais on dirait qu'ils sont animés par une peur.
Parce qu'ils oublient la finitude de l'être humain.
Là,
on est dans une société où on peut oublier la finitude de l'homme, de nos idées, de nos amis.
Ah oui, ça c'est encore notre esprit qui essaie de continuer de fragmenter les populations entre les bons et les mauvais. Et toujours vouloir s'identifier avec les bons, et souvent les bons sont vus comme les jeunes au potentiel, qui soient beaux diplômés, je ne sais pas quoi. L'idée qui alimente les entreprises en ce moment, c'est que la réussite est la chose la plus importante. Il n'y a pas une question de processus, il n'y a pas une question de qualité de vie. Voilà, ce n'est pas la qualité du travail ou la qualité de vie à l'entreprise qui est spécialement importante. La qualité de vie est importante dans un milieu de travail uniquement pour produire plus de résultats, mais pas comme un bien, comme un but en lui-même. Avant, il y avait une idée de la qualité de vie au travail pour que les gens puissent prendre plaisir. Maintenant, l'idée de prendre plaisir au travail, c'est uniquement dans un but lucratif. Donc, on va donner juste assez ce qu'il faut pour que les gens soient relativement satisfaits, mais pas plus, parce que sinon, ça coûte trop cher en entreprise. Donc, les entreprises sont dominées par ce genre de culture, mais ce qu'on essaie de faire ici, c'est de savoir pourquoi. Parce que si on peut comprendre d'où vient cette culture d'entreprise, nous pouvons avoir retombé dans un esprit de compassion par rapport à ce qui se passe dans nos milieux d'entreprise, parce que chaque personne qui est dans le milieu d'entreprise est aussi manipulée que vous, aussi manipulée que chacun. Il est dans le système et il pense qu'il a besoin de se conformer au système pour pouvoir survivre. Et comme on a vu, la survie, une fois que nous sortons le matin même de cet magnifique esprit d'unité, nous serons remplis d'une sorte d'angoisse. Et par la suite, nous, toutes nos perceptions de notre vie seront dominées par ce besoin de se défendre et sécuriser sa position. J'arrive au travail, je suis jeune cadre, et j'ai mes objectifs, je sais ce que je dois faire pour progresser, et pour atteindre mes objectifs, je serai obligé de pousser les autres à faire plus de travail, à travailler plus, à produire plus. Plus que ce qu'ils ont fait déjà l'année dernière et l'année d'avant. Maintenant, ils sont déjà au taquet, mais mes supérieurs disent qu'il faut que je les fasse travailler encore plus pour que moi, je suis bien noté, que je sois bien noté. Si je suis bien noté, je vais avoir augmentation, possibilité d'avancement, etc. Donc, moi aussi, en tant que jeune cadre, je suis dans un système. C'est-à-dire que chacun qui travaille dans une entreprise subit les mêmes lois de l'entreprise, la même culture, et subit aussi, surtout, les mêmes lois à l'intérieur. Il pense qu'il doit continuer à faire et reproduire la culture dans l'entreprise pour sa sécurité, mais pas simplement pour sa sécurité, pour être bien vu, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'importance de soi, valorisation de soi. Il doit valoriser son être tous les jours. C'est l'inertie de cette machine qui est mise en route le matin quand il se lève. Il se regarde dans la glace, il ajuste sa cravate, il pense qu'il est un super être. En dehors de l'unité, il ne pense plus du tout à l'unité. Et à ce moment-là, il y a une angoisse qui s'installe. Est-ce que je suis assez moi-même? Est-ce que je suis un individu suffisant? Une telle chose n'existe pas en réalité, un individu suffisant. Parce qu'un individu est une fabrication du départ. Donc l'individu, entre guillemets, va toujours sentir un besoin de se valoriser et continuer à se valoriser et continue à alimenter cette machine et de voir à travers ses relations avec les autres, surtout au travail, le reflet de sa valeur. Et il va chercher sa valeur. Il va chercher l'épanouissement parce qu'il se sent vide en quelque sorte. On se sent seulement bien, mais profondément, fondamentalement bien, dans notre origine spirituelle. Cet endroit philosophique que nous appelons l'unité parfaite. Nous nous ressentons bien uniquement quand nous joignons notre esprit à cet endroit, à ce souvenir en nous. Dès l'instant que nous fermons la porte à cet endroit, nous serons remplis d'un sentiment vide, et c'est un sentiment de complétude. Et nous allons essayer de nous remplir d'un sentiment de complétude, de développement, d'existence, de plénitude, de perfectionnement. Donc je vais vouloir m'exprimer dans mon milieu de travail, de me voir s'épanouir à travers mon travail, par l'intermédiaire de mon travail, à faire ceci, à prendre des responsabilités, à demander à mon chef de faire plus de choses. Mais mon chef n'aime pas ça. Parce que ça a tout l'air de vouloir prendre un peu de son travail. Donc je veux pas ses responsabilités à lui, mais par contre, peut-être plus de responsabilités qui sont occupées par mon collègue. Mais mon collègue n'aime pas ça non plus. Mon collègue va se sentir menacé par mon envie de me développer. Ou mon chef, parce que je risque de prendre sa place. Donc ce que nous essayons de dire ici, c'est que tout le monde est dominé dans le milieu de travail par ces trois impulsions. Il y en a d'autres, mais ces trois sont... Il y a aussi la honte, la tristesse, il y en a d'autres choses aussi, mais qui déroulent plus dans d'autres domaines, comme les relations à la famille, en famille, ou avec son propre corps. Mais ce qui domine notre expérience dans le milieu de travail, c'est ces trois puissantes impulsions de devoir essayer de s'épanouir, de s'exprimer à travers son travail, de devoir se valoriser, de trouver plus de présence en soi-même de par son travail, et de sécuriser sa vie et de repousser le sentiment que juste à côté de lui, il y a une menace, il y a une sorte de menace de survie qui plane.
Vous ne pensez pas que c'est sciemment mis en place pour le fait de toujours mettre en avant les résultats individuels pour casser les comprendre que c'est pour installer le climat?
Ça pourrait bien être le cas que l'hiérarchie, depuis des années, des décennies, essaie d'installer une sorte de culture qui désolidarise les gens, qui casse une sorte de culture déjà familiale ou culture de groupe. C'est pas impossible. Et c'est encore, c'est pour les raisons ici, c'est pour mieux dominer, manipuler, contrôler. C'est-à-dire que dès l'instant que je pense que ma survie dépend de la façon que je me sers des autres autour de moi, les gens ne sont plus des êtres humains, ils sont des objets. Je n'ai plus une relation vraiment avec un être humain, j'ai une relation avec un objet, un élément, un facteur de production, comme les appelle dans l'économie, et je vais me servir d'eux comme je me sers d'une machine. Ça c'est évident. Et je vais avoir une relation humaine avec eux simplement pour qu'ils soient plus performants, pour pouvoir produire, pour pouvoir atteindre les objectifs. Ce n'est pas parce qu'il y a une valeur quelconque, une valeur dans une relation humaine elle-même. Mais pour essayer de trouver plus de paix dans ce système, ça va aider si nous comprenons d'où ça vient et de savoir que ces gens qui sont dans ce système-là ne peuvent pas être heureux. Ils sont dominés par cette culture de la dualité, par cette sorte de gestion, de management et gestion par la dualité. Parce que la dualité est dominée par une sorte de dynamique et de culture qui est alimenté par la peur, par le besoin de se valoriser, de se voir toujours plus important, et par le besoin de contrôler les autres pour servir les fins d'atténuer sa peur et de se continuer à se valoriser à travers tout ce système d'objectifs et de promotion. Donc, le plus que nous pouvons comprendre cette dynamique sur un arrière-plan plus philosophique, plus spirituel, le plus nous allons pouvoir trouver de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, parce que nous savons d'où ça vient. Ce n'est pas des gens, ils sont méchants, mais ils sont méchants, ils sont manipulateurs, parce qu'ils sont entièrement dans un délire de dualité, et le délire de la dualité est dominé par la peur. Et dans si on veut vraiment sortir de ce même système, il va falloir qu'on apprenne à voir ces gens-là comme souffrants. Là, il y a un vrai basculement à faire, qui n'est pas facile. Pour vraiment trouver la sérénité du point de vue de l'unité parfaite, il va falloir essayer de faire un effort pour voir ces gens qui contrôlent nos entreprises, qui contrôlent notre travail, qui sont nos chefs hiérarchiques, comme des êtres qui ont fait un mauvais choix de dualité, qui sont entrés dans un scénario, dans une situation d'entreprise, où eux-mêmes, ils sont aussi des objets. Faut pas croire, eux, ils sont aussi des objets dans le système, et ils sont souffrants dans leur exil de cette magnifique présence d'unité parfaite. Oui, c'est bien dit, victime consentant, je crois que c'est très juste. Je pense que c'est moins facile à s'en sortir, à en sortir qu'on pense, par contre.
C'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau de hiérarchie, on peut les tenir en place.
C'est moins évident, c'est pas évident. Soit on est dedans et on joue le jeu, ou si on essaie de prendre un peu de distance, on est traité des fois de distant, de ne pas être, on n'est pas impliqué, tu n'es plus impliqué comme tu étais. Si on ressent pas cette tension, le lion, c'est quoi l'expression, celui qui est vorace, les entreprises, on veut les gens voraces. C'est ça l'expression, vorace?
Oui, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de besoins. Commencer à acheter une plus grosse voiture, ça, puis après, il faut entretenir. Et après, ils disent, j'ai pas le choix, j'ai quatre gamins.
Non, mais
nous, c'est...
C'est... Ça, c'est
déjà voir son propre fonctionnement, c'est déjà assez de boulot pour que je me dise.
Oui, oui.
Alors là, c'est regarder les autres, c'est déjà voir son propre.
Oui.
C'est déjà une
Ce que Yolanda me fait penser aussi, c'est l'importance l'importance de se regarder soi-même, parce que c'est en regardant soi-même qu'on va mieux comprendre l'autre. C'est-à-dire qu'on peut regarder les autres, et on a beau à regarder les autres, si on ne se regarde pas soi-même et voit qu'on a, dans un sens, et on peut le voir, exactement le même comportement que la même difficulté d'en sortir, la même difficulté de sortir de ces mêmes peurs et besoins, on va avoir du mal à vraiment ressentir la compassion pour eux. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de voir comment, vous vous appelez comment?
Lionel.
Lionel. Comme Lionel dit, on n'a pas forcément besoin de la grande voiture.
C'est,
justement. Non, je ne crois pas que Lionel est un grand prédateur. Je ne pense pas. Mais
on fait une parenthèse sur mon prénom. Un jour, je me suis intéressé à l'étymologie de mon prénom Lionel. Et
oui, mais c'est pas ça.
Polonais, le prénom Jean, le premier pape Jean était le pape des gentils.
Ah oui, d'accord. D'accord. Vous avez l'air plutôt gentil. Vous, faites, vous portez bien votre nom.
Ça m'a donné beaucoup de là parce que toute leur vie, ils arrivent à un moment à 5 ans.
Et comme vous dites, on peut les plaindre, on peut les comprendre. De notre... mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller au-delà de juste les plaindre, mais de savoir qu'il y a. On peut passer de les plaindre à la compassion. La compassion va nous aider d'abord à reconnaître quelque chose pour nous. Qui est une position philosophique, une position spirituelle plus puissante pour nous, ce qui va nous permettre d'avoir une relation avec eux qui va nous enrichir plus que juste l'idée de les plaindre. Les plaindre, c'est ce qui va nous faire du mal avec l'idée de les plaindre, c'est qu'il y a l'idée qu'ils sont un petit peu... je vais me reprendre un petit peu. On veut arriver à voir l'unité qui se joue derrière. C'est qu'ils sont des éléments dans une unité, ils jouent le rôle qu'ils jouent dans cette unité, la partie de l'unité, qui est encore dans l'emprise de ce délire. Et nous essayons de sortir un petit peu de ce délire. Et le plus que nous pouvons prendre une position sur l'arrière-plan, le plus nous allons pouvoir communiquer avec eux d'une façon à ce qu'ils voient chez nous quelque chose, quelqu'un qui est dans le système, ou qui paraît dans le système, mais qui ne partage pas les mêmes peurs et les mêmes délires qu'eux. Et à ce moment-là, peut-être en nous regardant et en travaillant avec nous, ils peuvent comprendre qu'ils peuvent être au travail, mais ils peuvent aussi commencer à changer quelque chose en eux. Et comme Yolanda l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas besoin de ces grosses voitures. Pas forcément. Et tout le monde peut commencer par regarder s'il a besoin de se laisser dominer par ses besoins. Parce que c'est ce qui se passe très souvent dans les entreprises. Parce qu'on vit, on est alimenté par cette impulsion qui vient de l'intérieur qui dit garantis ton arrière, gagne le plus possible, peur, tu sais jamais pour l'avenir, gagne de l'argent, et bien sûr, celui qui gagne plus dépense plus, très souvent. Il ne met pas à côté pour le vrai confort de sécurité financière, souvent il tombe dans une sorte d'engrenage où il dépense plus parce qu'il gagne plus. Et donc là, on peut profiter de prendre une position plus philosophique et spirituelle derrière pour commencer à remettre en question ses besoins, absolument. Et le plus qu'on commence à comprendre que notre vrai bien-être vient de notre endroit, bien certainement pas des positions matérielles, mais vient non plus des positions psychiques comme plus de valeur dans l'entreprise. Ça vient de notre endroit entièrement différent. Le plus que nous arrivons à nous reculer en dehors des scènes de la vie, pour aller vers l'intérieur, le plus nous pouvons ressentir une complétude de l'intérieur, le plus nous pouvons commencer à mettre en question nos besoins matériels, certains besoins matériels. Et nous pouvons commencer un processus de recul, de retourner la machine à inertie dans l'autre sens, pour que ce ne joue plus toujours en faveur de devoir gagner plus d'argent, de devoir se valoriser dans l'entreprise, de devoir toujours s'épanouir là, l'entreprise. Nous pouvons commencer à être dans l'entreprise, mais à tourner la machine à inertie dans l'autre sens. Dans l'autre sens où on va commencer à utiliser les scènes autour de nous, mais pour nous rappeler de quelque chose qui est en train de se faire sur l'arrière-plan. D'abord, on peut regarder ses collègues et dire pourquoi il fait ce qu'il fait. Et là, on se rappelle de toute cette histoire, la conséquence de sortir de cette idée d'unité parfaite qui nous remplit d'une appréhension très puissante, d'un sentiment d'incomplétude et d'un besoin de se valoriser, et voir ça et essayer de ressentir la douleur chez les autres qui est derrière ces impulsions. Personne qui est rempli de ces impulsions peut se sentir bien, même les grands chefs qui gagnent effectivement 5-6 000 euros par mois, voire 10 000 euros, voire 15 000 euros par mois, voire plus. Personne qui est rempli d'une peur, d'une peur, d'un sentiment d'incomplétude, d'un besoin de travailler plus, d'un besoin de gagner autant. Personne qui est rempli par une incapacité, ou qui est dominé par une incapacité de vivre avec moi, et de vivre sans tous les accoutrements, sans toute la valorisation de son travail, il doit être souffrant. Et il faut qu'on commence à regarder les gens autour de nous comme souffrants. Et celui qui dit souffrant, dit à l'intérieur de lui, il doit être en train de demander à l'aide. Quelque part, aussi arrogant qu'il semble être, aussi dominant et manipulateur qu'il semble être, quelque part, il est en train de demander à l'aide parce qu'il est coincé dans une carapace. Il est coincé dans une inertie et dans une dynamique sans le savoir parce que c'est dans son inconscience. Mais une partie de lui sait qu'il est souffrant. Sait que ce n'est pas ça le vrai plaisir, la vraie satisfaction de la vie.
Ça peut être
absolument ça, c'est que le plus qu'ils sont investis, le plus qu'ils pensent avoir besoin de ceci, le plus ils vont se sentir menacés de l'intérieur si jamais ils l'ont plus. C'est-à-dire le plus qu'on ressent le besoin d'avoir ces choses, le plus vulnérable à ce qu'on sent. On a complètement perdu l'autonomie qui vient de l'intérieur, qui vient du souvenir de notre profond bien-être tel que nous sommes. S'il y a un sentiment de vulnérabilité extrêmement puissante, immense, à l'intérieur de n'importe qui pense, qui est perdu dans ses besoins, qui pense avoir besoin des choses matérielles dans cette vie. Que ce soit des choses matérielles ou des choses psychologiques et psychiques, telles que les relations avec les autres ou une certaine activité. C'est une souffrance, ce n'est pas un plaisir, même s'ils arrivent à continuer à avoir ce qu'il leur faut. C'est une accoutumance, ils sont dépendants, ils sont souffrants dans ce qui semble leur complétude de par les choses à l'extérieur. Ce n'est pas une vraie complétude qui vient purement de l'intérieur.
Bernard, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce n'est pas plus simple de se voir soi-même? C'est-à-dire qui se sent blessé ou qui se soucie? C'est moi-même qui les vois comme ça. Donc je porte moi-même, vous voyez, ce jugement sur eux. Donc il vaut mieux s'observer soi-même, vous comprenez?
Absolument, oui.
C'est mon programme qui voit cela, donc c'est ma réaction qui est comme ça. C'est toujours, c'est beaucoup plus oui. préoccupée par mon regard, ma propre réaction, parce que c'est moi qui crée ce monde autour de moi. Comme ça, cet acteur, il joue un salaud ou un riche ou un voleur ou un, quelqu'un en colère, parce que c'est moi qui le suscite. Donc, il me démontre
oui.
ma réaction. Donc, il vaut mieux voir ce que je porte en moi.
Oui. Notre point de départ.
La connexion avec quelque chose qui est plus profond, qui n'est pas cette, vous voyez, cette colère, ce jugement, cette critique.
Ce que Yolande nous aide à comprendre, c'est que le seul but de toutes ces informations, c'est de l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire, mon point de départ pour absolument tout, c'est ma réaction par rapport à ce qui se passe autour de moi. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas juste une observation ou une observation générale des gens autour de moi.
Ça me démontre mon intérieur. Tout ce qui est joué autour de moi, ça me démontre mon intérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on est reconnaissant à tous ceux qui jouent autour. Parce que c'est grâce à eux qu'on voit l'intérieur. Sans eux, je ne pourrais jamais me connaître.
On peut connaître une sorte de une reconnaissance et on peut
exactement.
Éventuellement...
C'est là, il y a la compassion par la suite. C'est grâce à la reconnaissance de cela, on a la compassion pour l'autre, pour la colère. Grâce à cette colère, je peux voir, voilà, j'ai une critique, jugement terrible envers lui, une haine, ou je ne sais pas quoi. Voilà. J'ai envie de le battre, ou j'ai envie d'être violente. Ou, c'est grâce à cette démonstration.
C'est là
la compassion peut être vue.
Surtout, ce qu'il me montre, il me montre quelque chose que j'ai en moi-même.
Exactement.
Et c'est ça, cet acte d'observation et de voir ce qui me fait réagir chez l'autre m'aide à comprendre quelque chose que j'ai en moi-même, puisque nous sommes toujours une unité, nous partageons toujours le même esprit. Si j'ai une réaction par rapport à quelqu'un, c'est parce que je contiens exactement la même chose et ça ne me plaît pas. C'est quelque chose que je peux profiter maintenant de le voir, de l'identifier, de ne pas me juger, ce qui est la chose l'essentiel dans tout ceci.
Si,
de ne pas juger l'autre, de savoir d'où ça vient simplement d'une série de mauvais choix, de mauvais choix qui sont pas confortables à voir, pas confortables à confronter. Mais si nous...
Que je porte en moi.
Mais
donc,
que
je suis reconnaissante à l'autre.
Je suis...
Et c'est grâce à l'autre, je peux le voir, donc j'ai la compassion pour la vie.
Donc, je peux éventuellement aller au travail et de plus en plus, dans une sorte de quiétude et tranquillité dans mon milieu de travail, que mon milieu de travail, au lieu d'être une prison, devient maintenant plutôt une salle de classe où j'apprends sur moi-même, sur mes perceptions, à savoir qu'il y a une vie, entre guillemets, extérieure qui déroule autour de moi selon les lois de l'ego, de la dualité.
Que je porte en moi.
Et je porte exactement les mêmes lois et mécanismes en moi. La façon de défaire ces mécanismes en moi, c'est de les observer de plus en plus des détails, de les voir de plus en plus, mais sans les juger, sans juger ce que je vois en moi.
Et ce regard intérieur, après, dissout cette situation. Donc ça se guérit automatiquement. Dès qu'on le voit, on guérit en soi et on guérit en l'autre.
Et ça se pourrait qu'éventuellement, ça guérit. Ça peut prendre du temps pour certaines, dans certaines situations, ça peut prendre du temps. Si j'arrive à voir l'autre comme un reflet de moi-même et j'arrive à le guérir ce que je vois en moi-même, c'est-à-dire voir que je comporte exactement la même chose que l'autre personne, ce besoin de me défendre, cette peur, ce besoin de me valoriser, et je n'ai plus besoin de faire ça parce que je ne suis pas en réalité un fragment. Je fais partie d'une magnifique unité et totalité. J'ai besoin de chercher ma vraie identité au sein de cette douce présence aimante qui est en nous tous. Le plus que j'arrive à faire ça, le plus que j'arrive à guérir cette partie de mon esprit, et à ce moment-là, le comportement des autres va me gêner de moins en moins.
Moi, ce que je me suis dit, pas pour le travail, mais en général, des gens qui, dans la vie, ont pu me blesser énormément, finalement, c'est ceux qui m'ont permis d'avancer. Et donc, je me suis dit, finalement, ce que je pensais être des ennemis, c'est finalement presque des meilleurs amis.
C'est
qui m'ont donné des clés pour avancer.
Les personnes qui t'ont blessé le plus, qui t'ont aidé à comprendre quelque chose.
Oui, par exemple, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, quelqu'un qui m'a mis énormément en colère. Bon, j'avais des raisons, effectivement, mais je me suis dit, j'ai une réaction qui est tellement disproportionnée. Et de là, j'ai fait tout un chemin sur la colère, tout ça. Mmh. Et je me dis, il n'y aurait pas eu cette personne sur mon chemin avec cette situation, ben, j'aurais jamais pris conscience.
On peut
et
arriver,
plus,
absolument.
Je suis presque reconnaissante à la personne.
Oui.
Et c'est plus un ennemi en face qui m'a tiré dessus et j'ai compliqué, machin. C'est quelqu'un qui m'a permis d'avancer dans ma vie.
Ça, on peut absolument arriver à ce sentiment d'être soulagé d'avoir eu cette implication, cette difficulté avec cette personne, à être vraiment heureux d'avoir pu passer par là. On
ouais.
peut, absolument, surtout avec certains grands événements, il faut du temps et du travail, ça ne vient pas forcément automatiquement, parce que
c'est dur
et c'est long. Ça peut.
Et ça rend autant service qu'une bonne copine qui va avoir la franchise de dire attention, t'as grossi ou t'es trop maniaque. Ou...
Oui.
Et finalement, quelqu'un qui blesse.
Quelqu'un qui blesse. Si on a la prise de si on essaie de s'appliquer tout ceci et dire ça, c'est en train de. Si j'ai une réaction tellement vive par rapport à cette personne, ça doit être en train de me montrer quelque chose en moi. On peut être garanti que ce qui me gêne chez l'autre est toujours.
Une souffrance intérieure
chez lui et souffrance intérieure chez moi, mais que je contiens exactement le même comportement que l'autre qui me gêne spécialement. Et c'est pour ça que ça me gêne. Je ne voulais pas le voir en moi. Donc j'étais particulièrement susceptible. Tout ce qui est, c'est une loi de la psychologie que tout ce qui est refoulé sera projeté. Ça veut dire que si j'ai un aspect de l'ego, de ce système, de la psychologie, de la dualité, j'ai toutes sortes d'aspects de cette psychologie en moi, mais je ne veux pas voir. Parce que le fait de sortir de l'unité parfaite nous rend agressifs, nous rend hyper sensibles, nous rend extrêmement demandeurs de valorisation, d'attention des autres. Mais plein de choses, ces choses-là, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir que je suis en demande d'attention de la part de ma femme ou de mes enfants. Je dois toujours me valoriser avec mes enfants, qui me voient toujours comme le grand-père, très sympa, ou je ne sais pas. Chacun sa façon de vouloir se faire voir dans les yeux des autres. Où je suis trop perfectionniste, mais au point que c'est agaçant pour les autres. Je suis dérangé si les choses ne sont pas faites comme ça. Même si c'est juste un certain niveau, et je suis maniaque pour être à l'heure. Chacun a une certaine façon d'incorporer certains aspects de cette cassure avec l'unité. Et c'est ces choses-là que je ne veux pas voir en moi. Parce que ça va mettre le doigt exactement sur ma sortie et mon choix de sortie de cette magnifique présence. Quelque chose que je n'ai pas voulu mettre en question. Maintenant, c'est en moi, je ne veux pas le voir, je suis hypersensible par rapport à ça. Je vais le voir partout chez les autres et jamais chez moi. Donc moi, je vais voir les gens super perfectionnistes à côté de moi ou qui sont chiants parce qu'ils veulent toujours être à l'heure. Et je vais où ils sont. Non, je rebobine. Je vais voir les gens qui incarnent ou qui expriment cette idée d'exigence, mais dans un autre milieu, dans un autre domaine. Par exemple, moi je suis exigeant pour être à l'heure. Ma femme, elle est exigeante pour que les choses soient à leur place dans la maison. Moi je m'en fous. Je laisse mes affaires partout. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est exigeant par rapport à ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? J'ai une pull qui traîne ici, mon livre qui traîne là-bas, j'ai mon assiette que j'ai laissée sur la table après avoir mangé, mais sincèrement, ça dérange à personne. Non, ça dérange à ma femme. Mais par contre, j'exige qu'elle soit à l'heure. Et moi, je ne vais pas vouloir voir que sa façon d'être perfectionniste, entre guillemets, à la maison, je le déteste. Parce que je contiens exactement la même chose. Je trouve que c'est inacceptable de ne pas être à l'heure dans les yeux des autres. Je ne supporte pas l'idée que les autres pensent que je ne les respecte pas, que je ne suis pas capable d'être à l'heure, qu'il y a toutes sortes de conséquences psychologiques pour moi si je ne suis pas à l'heure. Je ne veux pas voir ça. Que j'ai un malaise profond en fait par rapport à ça. J'ai besoin à ce que les gens me respectent et qu'ils voient que je suis bien, que je maîtrise la vie, que j'ai le contrôle de la vie. J'ai besoin que les gens me voient comme ça, mais pourquoi? Parce que j'écroule sous une condamnation de moi-même dès l'instant que je suis sorti de l'unité parfaite. J'écroule sous le poids d'une condamnation qui dit que tu es nul. Et maintenant, la seule façon que tu as de te rattraper, c'est d'être à l'heure. C'est tout à fait possible. Mais je ne supporte pas voir ça. Parce que si jamais je voyais que mon exigence d'être à l'heure, c'est simplement le reflet ou la conséquence de mon choix de sortie de l'unité, je serais obligé de remettre en question cette... Je serais obligé de me retourner vers l'amour, cette magnifique présence d'unité, et dire, est-ce que tu peux m'aimer même si je ne suis pas à l'heure? Et je ne veux pas le faire. Donc, je dis, ce n'est pas un problème chez moi, je n'ai pas ce problème, je ne veux pas voir. Par contre, ma femme, qu'est-ce qu'elle a un problème? C'est pour juste vous montrer que chaque fois que j'ai un problème avec une autre personne, une vraie réaction vive, c'est toujours parce que j'ai exactement le même comportement en moi, le même comportement psychologique. Ce n'est pas la même expression. Attention, elle, c'est par rapport à être maniaque à la maison, moi, c'est maniaque par rapport à être à l'heure. Et on va dire, on ne se comprend pas du tout. En fait, on se comprend très bien. On a exactement le même type. Le même problème psychique à l'intérieur, tous les deux, on pense qu'on est inacceptable auprès de l'amour. On a décidé déjà qu'on n'est pas acceptable. On a dit à l'amour, on ne peut pas être acceptable parce qu'on est sorti de la présence de l'amour. On s'est défini inacceptable. Et maintenant, on essaie de compenser pour compenser en devenant perfectionniste par rapport à une chose ou une autre, n'importe ce que c'est.
Mais alors, ça veut dire si on vient à la vie, on est comme des grands malades, en fait.
Ah,
et
ouais.
Toute la vie, le but, c'est de rechercher à retrouver l'unité.
Toute
la vie, le but, c'est comme à l'école, un peu apprendre et retrouver cette unité.
Toute la ville.
La vie.
But
ouais, pour... de retrouver cette unité. Mais pourquoi on fait ça?
Pourquoi on fait...
On se torture.
Parce que l'expérience continue uniquement pour deux raisons. Uniquement parce que déjà, on voit plus qu'on fait. C'est pour ça qu'on essaie justement de dévoiler toute cette dynamique de l'ego pour refaire ce choix. Parce que si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est parce qu'on a des gros doutes par rapport à notre fonctionnement. On veut savoir plus pour arrêter ce qui nous fait mal. Donc, on est dans le processus du bien, pour se faire du bien. Mais donc, l'ego en nous a tout caché dans l'inconscience. C'est-à-dire qu'on arrête de se faire mal quand on sait qu'on se fait mal. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas arrêter. Et on ne sait pas comment on est toujours en train de dire oui à la dualité et non à la non-dualité. On ne sait pas comment. Maintenant, on essaie de voir tous les différents mécanismes, toutes les différentes façons par lesquelles, moi je dis tous les jours à cette magnifique présence, non merci, pas aujourd'hui. Mais je ne le savais pas. Donc maintenant, on essaie de savoir un peu plus. Donc une chose, c'est que on continue parce qu'on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Mais l'autre chose, l'autre raison qu'on continue, c'est parce qu'on pense toujours qu'on peut le gagner, cette guerre de la dualité, cet effort de la dualité. On pense toujours que je vais pouvoir gagner une présence d'individus sortis de l'unité et d'être heureux, satisfait avec mes besoins en place, que tout le monde soit en place et que tout roule pour moi dans la dualité. C'est ce que l'ego me dit. La voie de la dualité qui m'entraînait dans cette machine du départ, sur ce tapis roulant, insiste que je peux toujours trouver mon bonheur dans la séparation, dans la fragmentation, dans la dualité. C'est ça le présent, ce qui est une partie de la machine qui continue toujours à chercher. Et ça, c'est défini par tous mes plaisirs, toutes les choses que je pense sans lesquelles je ne serai jamais heureux, je ne serai plus heureux, ce ne sera pas possible d'être heureux dans cette vie ici si je n'avais pas X, Y et Z. C'est ce qu'on appelle dans le langage d'une cour en miracle les relations d'amour particulier.
Quand tu parles d'amour, si on parlait du départ où c'est l'unité, on pourrait appeler ça l'amour inconditionnel, en étant incarné, donc un individu séparé, on pourrait toujours rechercher cet amour inconditionnel. Mais par contre, ce qu'on cherche, c'est un amour, en ayant des biens, en faisant croire qu'en ayant comme si, ou à la chirurgie esthétique, on va trouver l'amour chez l'autre. Le souci, c'est que ça, c'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour humain classique. Si on arrive, par contre, à s'aimer soi-même de façon inconditionnelle, à ce moment-là, on peut retrouver l'amour inconditionnel vers les autres, puisqu'on ne recherche pas de raison à plaire, ni à quoi que ce soit, et cet amour-là, il sera pur. Et à ce moment-là, on peut revenir en arrière sur ce qu'on a connu, mais tout en étant l'individu. Et là, l'ego tombe et tout le reste tombe, parce que la société de consommation ne fonctionne qu'avec ça, c'est ce travers de l'ego qui nous fait chercher ailleurs quelque chose qu'on peut trouver en nous, et cet amour, en fait.
Il y a une sorte de relation, même au travail, qui approche une sorte d'amour, et même une sorte d'amour inconditionnel, ce que Pascal disait, qui passe, comme tu dis, par une recherche pour cet amour inconditionnel, d'abord à l'intérieur, mais je ne dirais pas à l'intérieur de soi, vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas le soi qui peut accorder cet amour inconditionnel, parce que là, mon point de départ, c'est le soi qui est manquant. Donc il faut que je m'étende vers quelque chose qui n'est pas moi-même, qui est autre chose. Et c'est là où on parle du grand soi, où on parle de c'est autre chose, mais on doit commencer avec une idée d'un petit soi qui est manquant, qui essaie de se relativiser, de se mettre d'à côté dans un sens, et s'étendre vers quelque chose qui est cette présence, cette perfection, qui n'est pas soi-même, dont on fait partie. Et c'est à ce moment-là, quand on commence à voir que c'est une chose universelle, quand on commence à voir que si moi je fais partie de cette universalité, l'autre doit faire partie de cette universalité aussi. Donc ce n'est pas moi qui donne l'amour inconditionnel à l'autre, c'est moi qui reconnais que l'autre fait partie de cet amour inconditionnel aussi. C'est pas tout à fait pareil.
Après, je sais pas si j'ai donné de l'amour inconditionnel à quelqu'un. J'ai dû faire une erreur, parce que pour moi, on ne donne pas ça.
Oui, d'accord.
On le vit ou on ne le vit pas, mais c'est pas quelque chose qu'on donne. Mm-hmm. Le fait que ce soit inconditionnel, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. C'est pas parce que, par exemple, si c'est avec une personne, on reste avec une personne, c'est pas parce que la personne va nous donner quelque chose. Que ce soit sa présence, des choses gentilles, de l'affection, etc. C'est qu'elle soit là, pas là, qu'elle ait besoin d'aller faire le tour du monde, etc., ça change rien à l'amour qu'il peut y avoir. Alors, la plupart des couples que je connais, si tu me donnes ça, je t'aime, si tu me donnes ça, au bout d'un moment, même si je te le dis pas, mais c'est quand même une sorte d'échange de...
Les relations...
C'est l'amour égoïque, moi, j'appelle ça après.
Oui.
Oui, mais du coup, le souci, c'est quand il y a une séparation, on
met la pile, qui tout, on a fait déjà avant.
Oui.
Alors,
ce qui est intéressant quand on parle de.
C'est comme ça, c'était formidable. Comme vous avez parlé de cette inertie déjà avant.
Quand on parle de.
La fissure est bien plus haut, bien avant.
Quand on parle des relations entre hommes et femmes, quand on parle des relations dans le milieu de travail, il y a une trame, il y a la machine qui est déjà en route. Même avant que je rencontre mon époux ou mon épouse, il y a déjà la machine qui est en route et qui me guide inconsciemment. vers une personne qui va jouer mon jeu avec moi, de fragmentation d'individualité, de relations particulières, de d'amour conditionnel. Et inconsciemment, je me fais attirer vers les partenaires qui vont jouer ce. Et en même temps, ces mêmes relations vont aussi se prêter à un autre exercice, si je le veux, et c'est de jouer le rôle inverse. Je peux apprendre avec mon partenaire que j'ai choisi au départ pour jouer un jeu de l'amour conditionnel. Je peux utiliser cette relation pour m'aider à comprendre la nature de l'amour inconditionnel. Et cette personne-là est probablement la meilleure personne pour m'aider à comprendre ça. Avec toutes les exigences, je serai obligé de faire un travail de plus en profondeur en moi pour voir comment je suis exactement comme elle dans la conditionnalité ou dans la rigidité, dans la dualité. Je serai obligé de voir l'autre comme mon miroir, comme on dit, et tout ce qui m'agace chez l'autre, forcément, j'ai exactement le même départ, pas la même expression, mais le même départ. Ce qui alimente le comportement de l'autre, que ce soit dans le milieu du travail ou à la famille, c'est la même chose qui alimente mon feu, qui est ma réaction vive. Et c'est ça que je veux regarder maintenant, observer sans jugement, avec la présence de l'amour à côté de moi.
Et c'est ce manque d'amour qui s'articule, ce que vous avez dit au début, sur manque, puis après, peur, punition.
Ah, c'est pour ça que
c'est le manque d'amour initial qui après s'articule.
Mais si on prend ce principe du départ par rapport à quand on parlait des entreprises tout à l'heure et des gens qui avaient besoin de grosses voitures, enfin, une position, de maintenir, etc.
C'est
toujours manque d'amour. Et si on voit ça chez eux, en effet, on peut avoir de la compassion pour eux, peut-être encore plus facilement.
Parce qu'on a la même chose, mais ça s'exprime autrement
comme des bernards. Donc là, on peut se trouver ressemblant, finalement, parce que si on exprime pas de la même manière, on n'a pas cherché la même chose.
Pas simplement ressemblant, mais pas simplement ressemblant dans le fond, mais en fait, à la fin, identique.
Oui, et
c'est ça. Juste.
Et c'est ça. C'est là où on commence à voir le plus qu'on voit notre ressemblance et notre similitude avec l'autre, c'est ça qui nous aide à comprendre à la fin la présence de l'unité. C'est que nous sommes tous toujours les fragments d'une unité, d'un seul et unique esprit. Nous avons 7 milliards de différentes expressions individuelles de cet même et seul esprit qui a une dynamique dans un sens vers la dualité, et une autre dynamique dans l'autre sens, vers l'unité et vers la non-dualité. Et nous avons tous ces deux machines à inertie, dans un sens et dans l'autre. Et ce qui nous aide énormément à remettre les morceaux vers l'unité, à remettre la machine en marche vers l'unité, c'est d'observer ces deux machines déroulées, rouler dans chacun et fonctionner en chacun.
Par rapport à nos réactions personnelles.
Et le point de départ, c'est toujours nos réactions. Ma réaction à moi, ma réaction le plus vif à moi, va m'aider à vraiment guérir quelque chose en moi. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel pour analyser l'autre. C'est vraiment une guérison de soi, de la dualité en soi, de défaire ma façon de participer dans ma dualité, la partie de ma machine qui roule vers de plus en plus de dualité, de blâme, de projection, de déni. Mais c'est juste, on a cinq minutes de plus.
Si vous permettez, c'est d'abord accepter la situation. Lui, il a la Rolls, lui, il a la Mercedes, lui, il a je ne sais pas quoi. C'est accepter cette situation, la trottinette, accepter pour voir à l'intérieur
notre réaction,
y remonter cette inertie vers l'amour, c'est tout. Et après, on voit l'autre comme la même expression, de la même origine, et on a la compassion.
Oui, c'est vrai.
L'acceptation que nous pouvons dire de nos propres réactions, ce qui veut dire observer sans juger. Voilà, sans juger, sans exiger que ça soit autre chose, sans exiger qu'on soit différent.
Cette inertie qui est omniprésente autour de moi et qui est le reflet de moi, rien d'autre.
Donc on va
parfait voir l'inertie. qui me mène à cette expression.
Ça fait déjà, je ne sais pas quelle heure on a commencé exactement, c'était au moins quart peut-être. Je crois qu'on a largement, on a fait nos deux heures et peut-être vous avez d'autres choses à faire.
Merci.
J'espère que ça vous a plu. C'est juste une topo très rapide de l'application de ces idées d'unité et de dualité dans le milieu du travail. Et puis voilà, nous pouvons voir exactement la même chose qui se passe par rapport au milieu de la famille et aussi même par rapport aux questions de l'argent et la santé. Donc je vais vous remercier et je vais vous dire au revoir et à bientôt.
Merci.